Chapitre 6. Intimité nouvelle. Le pauvre Tom supporta sa vive douleur héroïquement et tint sa résolution de ne rien dire à M. Stelling de plus que ce qui était inévitable. La pièce de 5 shillings resta un secret même pour Maggie. Mais une angoisse pesait sur son esprit, angoisse si terrible qu'il n'osait pas même faire la question qui aurait pu l'éclairer. Il n'osa pas demander au chirurgien de M. Stelling « Serais-je boiteux, monsieur ?» Il fut assez maître de lui pour ne pas crier de douleur. Mais quand son pied eut été pansé et qu'il resta seul avec Maggie assise près de son lit, les deux enfants sanglotèrent ensemble, la tête posée sur le même oreiller. Tom se voyait déjà marchant avec des béquilles, ainsi que le fils du charron. Et Maggie, qui ne devinait pas ce qui le tourmentait, gémissait de compagnie. Il n'était venu à l'idée ni du chirurgien ni de M. Stelling de supposer cette crainte chez Tom et de le rassurer par quelques mots d'espoir. Mais Philippe attendit le chirurgien à sa sortie de la maison et amena M. Stelling à faire la question que Tom n'avait pas osé faire lui-même. « Veuillez m'excuser, monsieur, mais M. Askern dit-il que Tom doit être boiteux ?»«
Oh, non, non, » dit M. Stelling, « pas pour toujours, seulement pour quelque temps. »
« Savez-vous, monsieur, s'il l'a dit à Taleva ?»«
Non, il n'en a pas été question. »«
Alors, puis-je aller le lui dire, monsieur ?»«
Oui, certainement. À présent que vous m'y faites penser, je pourrais craindre qu'il ne s'en inquiète. Allez à sa chambre et rassurez-le. »
La première pensée de Philippe en apprenant l'accident avait été « Taleva sera-t-il boiteux ?»« Ce serait bien pénible pour lui, alors. » Et les offenses de Tom, non pardonnées jusque-là, furent effacés par ce sentiment charitable. Philippe sentit qu'il ne devait plus y avoir de répulsion entre eux, puisqu'ils étaient entraînés dans un courant commun de souffrance et de privation. Son imagination ne le fit point s'arrêter sur l'infirmité extérieure et ses résultats pour la vie de Tom, mais lui fit vivement comprendre l'incertitude qui devait le tourmenter. Il n'avait vécu, lui, que 14 ans, mais ces années avaient été pour la plupart oppressées par le sentiment d'un sort irrémédiablement pénible. « Monsieur Askern a dit que vous serez bientôt tout à fait rétabli, Taleva. Saviez-vous cela ? » dit-il presque timidement, en s'approchant doucement du lit de Tom. « Je viens de le demander à Monsieur Stelling, et il a répondu que vous pourrez bientôt marcher aussi bien que jamais. » Tom leva les yeux, avec cet arrêt momentané de la respiration qu'amène une joie subite. Puis il poussa un long soupir et tourna ses yeux bleus vers Philippe, comme il ne l'avait pas fait depuis 15 jours. Quant à Maggie, cette insinuation d'une possibilité à laquelle elle n'avait jamais pensé auparavant l'affecta comme un nouveau chagrin. La seule idée de Tom boiteux pour toujours l'emporta sur l'assurance qu'un tel malheur ne devait point lui arriver. Elle se rapprocha de lui et pleura de nouveau. « Ne fais pas la petite nigaude, Maggie, » dit tendrement Tom, se faisant maintenant très courageux. « Je serai bientôt guéri. » « Adieu, Taleva, » dit Philippe en lui tendant sa petite main délicate, que Tom serra immédiatement entre ses doigts vigoureux. « Demandez à M. Stelling, » lui dit Tom, « de vous permettre de venir quelquefois me tenir compagnie jusqu'à ce que je sois debout, Wakeham, pour me parler de Robert Bruce, vous savez. » Depuis lors, Philippe passa tout son temps, en dehors des heures de leçon, avec Tom et Maggie. Tom aimait à entendre les histoires de combats tout autant qu'avant, mais il insistait fortement sur le fait que ces grands guerriers, qui faisaient de si étonnantes choses et en sortaient sans blessure, portaient d'excellentes armures de la tête aux pieds, ce qui rendait le combat chose facile, pensait-il. Il ne se serait pas blessé le pied s'il l'avait eu dans un soulier de fer. Il écouta avec un grand intérêt une nouvelle histoire de Philippe au sujet d'un homme qui avait une mauvaise blessure au pied, et que la douleur faisait tellement crier que ses amis ne purent plus le supporter et le déposèrent dans une île déserte, sans lui laisser autre chose que des flèches empoisonnées pour tuer des animaux afin de se nourrir. « Je n'ai pas du tout gémi, vous savez, » dit Tom, « et je puis bien dire que mon pied était aussi douloureux que le sien. C'est une lâcheté de crier. » Mais Maggie soutint que lorsque quelque chose vous fait bien mal, il est tout à fait permis de crier, et que c'était bien cruel aux gens de ne pas le supporter. Elle désirait savoir si Philoctète avait une sœur, et pourquoi elle n'allait pas avec lui dans l'île déserte pour le soigner. Un jour, Peu de temps après que Philippe avait raconté cette histoire, lui et Maggie étaient seuls dans la classe pendant qu'on pansait le pied de Tom. Philippe était occupé à ses livres, et Maggie, après avoir erré dans la chambre, ne cherchant rien à faire de particulier, puisqu'elle allait retourner vers Tom, vint s'appuyer sur la table vers Philippe pour regarder ce qu'il faisait. Car c'étaient de vieux amis maintenant, et tout à fait à l'aise ensemble. « Qu'est-ce que vous lisez là, en grec ?» dit-elle. « C'est de la poésie, je le vois bien, parce que les lignes sont courtes. » « C'est au sujet de Philoctète, l'homme dont je vous parlais hier, » répondit-il, en appuyant la tête sur sa main et la regardant comme s'il n'était point du tout fâché d'être interrompu. Maggie, dans sa distraction, continuait à se pencher en avant, appuyée sur ses bras et remuant les pieds, tandis que ses yeux noirs devenaient de plus en plus fixes et sans but, comme si elle avait tout à fait oublié Philippe et son livre. « Maggie, » dit Philippe, après une ou deux minutes, la tête toujours appuyée sur sa main et la regardant, « si vous aviez eu un frère comme moi, croyez-vous que vous l'eussiez aimé autant que vous aimez Tom ?» Maggie tressaillit légèrement, comme sortant de sa rêverie, et dit « Quoi ?» Philippe répéta la question. « Oh oui, davantage, » répondit-elle tout de suite. « Non, pas davantage, parce que je ne pense pas que je puisse vous aimer plus que je n'aime Tom. Mais je serais fâché, si fâché pour vous. » Philippe rougit. Il avait voulu savoir si elle l'aimerait tout autant, malgré sa difformité, et maintenant qu'elle y faisait franchement allusion, il se révoltait contre sa pitié. Maggie, toute jeune qu'elle était, comprit sa méprise. Jusque-là, elle s'était instinctivement conduite, comme si elle ne s'apercevait nullement de cette difformité. Sa vive sensibilité et sa propre expérience des critiques de famille suffisaient pour la guider aussi bien que si elle avait été dirigée par l'éducation la plus soignée. « Mais vous êtes si instruit, Philippe, et vous pouvez jouer et chanter, » ajouta-t-elle promptement. « Je voudrais que vous fussiez mon frère. Je vous aime beaucoup. Et vous resteriez à la maison avec moi, quand Tom sortirait, et vous m'enseigneriez beaucoup de choses, n'est-ce pas? Le grec et tout le reste. » Mais vous partirez bientôt et vous irez en pension, Maggie. Et alors vous m'oublierez et vous ne vous inquiéterez plus de moi. Et ensuite je vous verrai quand vous serez une grande demoiselle et vous ferez à peine attention à moi. Oh non, je ne vous oublierai pas, j'en suis sûr, dit Maggie en secouant sérieusement la tête. Je n'oublie jamais rien et je pense aux gens quand j'en suis éloigné. Je pense au pauvre Yap. Il a une loupe à la poitrine et Luke dit qu'il en mourra. Seulement, ne le dites pas à Tom, parce que cela lui fera de la peine. Vous n'avez jamais vu Yap. C'est un drôle de petit chien. Personne ne tient à lui que Tom et moi. Est-ce que vous tenez à moi autant qu'à Yap, Maggie ? Dit Tom en souriant assez tristement. Oh oui, je crois que oui, dit Maggie en riant. Je vous aime beaucoup, Maggie. Je ne vous oublierai jamais. Et quand je serai malheureux, je penserai toujours à vous. Je souhaiterais avoir une sœur avec des yeux noirs, justement comme les vôtres. Pourquoi aimez-vous mes yeux ? Dit Maggie, très satisfaite. Elle n'avait jamais entendu personne que son père parler de ses yeux, comme s'ils avaient quelque mérite. Je ne sais pas, dit Philippe. Ils ne sont pas comme d'autres yeux. Ils semblent vouloir essayer de parler, mais de parler avec bonté. Je n'aime pas beaucoup que les gens me regardent, mais j'aime que vous me regardiez, Maggie. « En vérité, je crois que vous m'aimez plus que ne m'aime Tom, » dit Maggie, presque avec tristesse. Puis, cherchant comment elle pourrait convaincre Philippe de son amitié pour lui, quoiqu'il fût contrefait, elle ajouta, « Aimeriez-vous que je vous embrasse comme j'embrasse Tom? Je le ferai volontiers si cela vous fait plaisir. » « Oui, je l'aimerai beaucoup. Personne ne m'embrasse jamais. » Maggie lui passa le bras autour du cou et l'embrassa tout à fait fraternellement. « Voilà, à présent, dit-elle, je me souviendrai toujours de vous, et je vous embrasserai ainsi quand je vous reverrai, lors même que ce serait dans bien du temps. Mais il faut que je m'en aille à présent, parce que je pense que M. Askern en a fini avec le pied de Tom. » Quand M. Taleva vint pour la seconde fois, Maggie lui dit « Oh, père, Philip Wakeham est si bon pour Tom. C'est un garçon si instruit, et je l'aime beaucoup. Et tu l'aimes aussi, Tom, n'est-ce pas ?»« Dis que tu l'aimes, » ajouta-t-elle d'un ton engageant. Tom rougit un peu en regardant son père et dit « Nous ne serons plus liés quand je quitterai la pension, père. Mais nous sommes bien ensemble à présent, depuis que j'ai eu mal aux pieds. Et il m'a appris à jouer aux dames. Et je puis le battre à ce jeu. » « Bien, bien, » dit M. Taleva. « S'il est bon pour toi, tâche de lui rendre l'appareil, et sois bon pour lui. C'est une pauvre créature contrefaite, et il tient de sa mère. Mais ne te lie pas trop avec lui. Il a aussi du sang de son père. Ah, le poulain gris peut en venir à ruer comme son père noir. » Le caractère différent des deux garçons fit ce que l'avertissement à lui seul de M. Taleva n'aurait pu faire. Malgré la nouvelle bienveillance de Philippe et les égards correspondants de Tom pendant son temps de souffrance, ils ne devinrent jamais amis intimes. Quand Maggie fut partie et que Tom put recommencer peu à peu à marcher comme auparavant, l'intimité créée par la pitié et la reconnaissance s'évanouit par degrés, ce qui les replaça dans leurs anciens rapports l'un vis-à-vis de l'autre. Philippe était souvent maussade et dédaigneux, et les impressions plus bienveillantes de Tom disparurent peu à peu dans ce vieux fond de soupçons et de répugnance pour un individu singulier, mal bâti et fils d'un coquin. Pour que les garçons ainsi que les hommes puissent s'identifier entre eux au moyen de la chaleur d'un sentiment passager, il faut qu'ils soient composés d'éléments pouvant se combiner, autrement ils se sépareront de nouveau dès que cette chaleur n'existera plus.